días, mi nombre es Susan Saavedra.
C'est pas du vent.
Buenos días, mi nombre es Hernán Castrillón.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Buenos días para todos. De antemano, muchas gracias por su participación.
Si vous nous rejoignez, nous parlons de l'imminence de l'effondrement du monde. Et oui, rien que ça, dans C'est pas du vent aujourd'hui, avec l'ingénieur agronome et docteur en biologie Pablo Servigne et l'expert en résilience des systèmes socio-écologiques Raphaël Stevens, tous deux auteurs de Comment tout peut s'effondrer, publié dans la collection Anthropocène aux éditions du Seuil. Le sous-titre de votre livre, messieurs, c'est Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes. Alors la collapsologie, ça fait partie de ces mots quand même qui restent soulignés, vous savez, quand on les écrit sur notre ordinateur, c'est-à-dire l'orthographe n'est pas encore reconnue. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que ça veut dire ?
Eh bien, ça fait déjà quelques années qu'on s'intéresse à tous ces thèmes, qu'on a rassemblé un faisceau d'indices assez impressionnant, qui nous a impressionné d'abord nous-mêmes. Et en fait, on a eu la passion de transmettre tout ça. Au début, on nous a pris pour des fous. Alors nous, on a, en rigolant, parce qu'il faut bien rigoler, c'est très
nerveux. On en a besoin, là, oui.
On en a besoin, parce qu'on a vraiment eu des moments difficiles à lire toutes ces mauvaises nouvelles. C'est très dur, en fait, c'est assez toxique. Et en rigolant, à un moment, on se dit, mais il faudrait inventer un mot pour ça. Et la collapsologie est venue, comme on l'a défini au début en rigolant, un peu dans l'autodérision. Et puis c'est resté, parce qu'en fait, ça montre bien qu'il y a un manque. Il manque une science de l'effondrement de notre civilisation actuelle, aujourd'hui.
Souvent, ça vient en anglais ?
Alors collapse, oui, c'est en anglais, mais en latin collapsus aussi, ça existe. Mmh. Donc c'était nous, on voulait créer une science transdisciplinaire, on voulait sautiller d'une discipline à l'autre et en même temps analyser ce qui nous arrive aujourd'hui.
Mmh. Je ne sais pas si c'est très bon signe de savoir que aujourd'hui, désormais, il existe une science de l'effondrement.
Moi, je trouve, enfin, oui,
mais ça. Je sais pas si une science existe à l'heure actuelle, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui montre de l'intérêt pour le sujet, et ça, effectivement, c'est assez rassurant, dans le sens où, ben, il vaut mieux rester lucide face à la situation pour, effectivement, en atténuer les effets les plus néfastes. Parce que si on se voile la face, évidemment, on ne pourra pas savoir exactement d'où les conséquences les plus difficiles peuvent venir.
Voilà, c'est une attitude de lucidité. On n'est ni dans l'optimisme ni dans le pessimisme. Et ce qui est important de dire, nous, on n'a rien inventé. On a synthétisé des centaines d'articles scientifiques qui paraissent depuis 3, 4, 5 ans, 6 ans. On en a plus de 3000 articles et 300 bouquins. Je pense qu'il y a un décalage entre tout ce qui sort, toutes les études qui sortent chez les scientifiques, ce que savent les scientifiques, et ce que c'est le grand public. Nous, on a voulu vraiment combler ce gap, ce décalage. Donc, c'est une sorte de mise à jour de la pensée écologique.
Alors, vous nous avez expliqué dans la première partie de l'émission que le monde que nous avons fabriqué, qui repose donc sur une énergie fossile disponible, pas chère, un système financier mondial et une économie globalisée est au bord de l'effondrement. Si on ajoute à cela les changements climatiques, l'effondrement de la biodiversité, le tableau est plus qu'inquiétant. Et là où vraiment on se dit, c'est vrai que ça tourne pas rond, c'est que vous montrez bien à travers plusieurs exemples que tout est globalement totalement connecté. Vous prenez l'exemple de la fabrication du Boeing 747. Vous dites, pour assembler ces avions, Boeing fait appel à près de 6500 fournisseurs basés dans plus de 100 pays et effectue environ 360 000 transactions commerciales chaque mois. Telle est l'incroyable complexité de notre monde moderne. Alors c'est vrai, quand on lit ça, on se dit, mais comment allons-nous nous en sortir ? Déjà, est-ce qu'on peut dater cet effondrement ? Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il va arriver ? Vous vous basez sur deux rapports essentiellement, qui donnent quand même notamment le rapport Andy ou le rapport du Club de Rome qui date des années 70, hein, qui lui prévoyait un effondrement déjà de notre civilisation autour des années 2015-2025, on est en plein dedans, c'est à cette échéance-là.
Alors sur la futurologie, c'est quand même un exercice très délicat. Il y a trois choses rapidement à dire. La première, c'est qu'on réhabilite comme, en quelque sorte l'intuition. Et face à des événements totalement imprévisibles, ce que Nassim Nicholas Taleb, le philosophe trader, appelle les signes noirs, des événements qu'on ne peut pas prévoir et qui marquent l'histoire, les probabilités, les statistiques ne sont pas efficaces, on a besoin de l'intuition. Et en science, on a aussi besoin de l'intuition. Donc nous, on se dit, faisons confiance à notre intuition.
Alors votre intuition, elle nous dit quoi ?
Notre intuition, pour l'instant, c'est que un effondrement de notre civilisation aura probablement lieu avant 2020, être sûr avant 2030. Ça, c'est une intuition.
Avant 2020, c'est demain.
Et on n'est pas du tout dans, plus, en tout cas, depuis qu'on a lu tout ça, dans des horizons 2100 ou 2050. Après, il n'y a aucun moyen d'être sûr. Alors, l'autre outil de futurologie, c'est ce que les scientifiques appellent des signaux avant-coureurs. Donc, les spécialistes des systèmes complexes ont observé qu'avant qu'un système s'effondre, juste avant, il fait un petit bruit très caractéristique de l'effondrement qui va suivre. Et donc, les scientifiques se sont amusés, j'allais dire, mais à détecter ces bruits-là et à prévoir les effondrements futurs. Et ça marche très bien dans les écosystèmes, mais beaucoup moins bien dans la finance et pas encore au point. Et donc ça, là, on décrit un chapitre sur que nous apprennent les signaux avant-coureurs, et ils nous apprennent quelque chose de terrible, c'est qu'en 2012, il y a eu une étude dans la revue Nature qui dit que 24 chercheurs internationaux qui ont détecté des signaux avant-coureurs d'un effondrement de la biosphère, du système Terre. C'est une étude qui a eu beaucoup de retentissement médiatique à l'époque. Voilà, on a beaucoup parlé. Et puis le troisième outil qu'on a pour sonder l'avenir, c'est les modèles. Vous parliez du modèle Meadows ou du modèle Andy. Alors les modèles sont pas là pour prédire l'avenir, mais pour sonder, c'est-à-dire voir comment notre système peut évoluer, pour tester la dynamique des systèmes. Et là, on est tombé sur deux magnifiques modèles. Le modèle Andy, en deux mots, il dit que les inégalités sociales, les inégalités économiques sont un facteur d'effondrement. Plus dans une société il y a d'inégalités, plus on s'effondre vite et de manière certaine.
Or, aujourd'hui, on voit bien que les inégalités sont croissantes. Il y a de plus en plus de gens riches, de plus en plus de gens très pauvres.
Voilà. Sont à un niveau extraordinairement élevé. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. Et ça rend notre société extrêmement fragile. Et le modèle Meadows, qui est sorti en 1972, il y a 40 ans quand même, il est toujours très robuste. Parce qu'en 40 ans de données réelles, il n'a toujours pas été démenti. Et qu'est-ce qui nous dit le modèle Meadows? C'est que quand on analyse de manière systémique toutes les crises, alors un effondrement de notre civilisation thermo-industrielle aura lieu dans la première moitié du 21e siècle. Et en fait, quand on regarde les courbes, on l'a mis dans le livre plus précisément, on est au bord du précipice. Moi, c'est personnellement, j'ai interviewé Denis Meadows, le co-auteur du rapport, en 2011, et ça m'a absolument bouleversé. J'ai déprimé pendant 2 mois. J'ai vraiment touché le désespoir après cette interview, parce que du coup, j'ai dû lire tous les rapports. Ça a été bouleversant au moment où mon premier fils naissait, et c'était un des grands moments clés de cette aventure.
Voilà. Alors sur la question quand, je voudrais quand même juste dire un petit mot sur l'effondrement évidemment comme un coup près, comme quelque chose de très rapide, mais aussi comme un processus, évidemment. Dans les civilisations passées, l'effondrement de l'Empire romain, par exemple, a pris des décennies, voire des siècles. Donc il y a effectivement une difficulté à dater les choses, et c'est pour ça que nous pensons qu'aujourd'hui, tout un chacun doit faire l'exercice en lui-même, d'utiliser sa propre intuition par rapport à tous les faits qui sont avancés par les différentes études scientifiques dont on fait état dans notre livre.
Alors la vraie question au fond de la date, de la durée ou de la vitesse de l'effondrement, c'est celle que vous posez d'ailleurs dans votre livre, c'est est-ce que nous, en tant qu'individus, nous allons en souffrir, nous allons mourir de manière anticipée? Alors les transitionneurs, tels que vous les appelez, c'est-à-dire ceux qui ont compris ces enjeux, existent déjà, ils ont compris qu'il fallait se déconnecter du système global pour exister durablement. Je vous propose d'aller par exemple à Villeurbanne près de Lyon, où une dizaine de familles a décidé de mutualiser ses ressources pour concevoir, réaliser, financer un logement accompagné par Abicop, une association qui milite pour relancer l'habitat collectif en France. Ils ont obtenu un prêt collectif garanti par le Grand Lyon et la ville de Villeurbanne. 10 ans plus tard, leur village vertical fait 5 étages et Pauline Mocor est allée à leur rencontre.
Je suis Antoine, je vis au village avec ma famille nombreuse, au 2e étage. Et je fais partie de la petite équipe qui a démarré l'aventure du village vertical il y a 10 ans. L'idée de départ, c'est que quand on a une 30aine d'années, qu'on a une famille et qu'on veut la loger correctement au centre-ville, c'est extrêmement difficile. Donc soit on rentre en concurrence tous les uns avec les autres pour essayer de trouver le bon plan, soit on se groupe pour trouver une solution collective, parce qu'on est plus fort ensemble. Quand on mutualise de l'espace, quand on mutualise des véhicules, quand on fait des achats groupés dans le voisinage, quand on s'échange des services, on a une qualité de vie qui augmente pour des prix qui sont faibles. Donc on peut minimiser notre impact sur le climat et les ressources naturelles et les ressources énergétiques sans sacrifier sur le bien-être. Au contraire, pouvoir acheter un certain nombre d'équipements parce qu'on les va les partager avec ses voisins, c'est avoir l'usage d'un certain nombre d'équipements qu'on ne pourrait pas se payer individuellement.
Est-ce que du coup, vous pouvez établir un parallèle entre ce rapport que vous avez à la propriété collective et le rapport de responsabilité que vous avez vis-à-vis de la planète, de l'environnement ?
Alors, il n'est pas très difficile à comprendre ce rapport. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans une sorte d'impasse planétaire sur la gestion des ressources et le vivre ensemble ? C'est l'accaparement par quelques-uns de la richesse. À partir du moment où on a compris et structurellement on a établi que le bien est collectif, du coup tout le monde fait attention à la préservation de ce bien, de ses richesses et de ses ressources. Voilà où est le vrai changement de mentalité.
Et voilà, les transitionneurs sont en route, hein. Ils ont compris là, qu'il fallait par exemple à Villeurbanne habiter ensemble, partager ses biens et pas simplement posséder. Pablo Servigne, voilà, ça c'est source d'espoir. On voit bien qu'il y a des humains qui sont déjà en train de s'adapter à l'effondrement en perspective.
Oui, absolument. En fait, on distingue ceux qui ont compris déjà de ceux qui n'ont pas compris encore. Mais dans ceux qui ont compris, c'est très étrange, il y a ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Et alors, je pense que ceux qui ont compris et qui y croient sont pas si nombreux que ça, mais quand même, ils passent à l'action. Et on les a appelés transitionneurs parce qu'on fait partie de ce mouvement qu'on appelle de la transition. La transition, c'est juste acter le fait que voilà, le monde tel qu'on le connaît s'effondre et qu'il y en a un autre qui émerge derrière. Et c'est vraiment important de penser la mort et la renaissance ensemble. Nous, quand on parle d'effondrement, depuis le début, ça s'est peut-être pas senti là, mais on évoque la renaissance, on évoque l'émergence de ce nouveau monde.
Vous dites même que c'est une opportunité pour la société. Alors le constat est un peu dur, mais derrière, il y a des choses à bâtir.
C'est une opportunité de voir tous ces verrouillages qui nous empêchent d'aller vers un monde meilleur, de se déverrouiller enfin. En fait, l'effondrement peut être vu aussi comme un grand déverrouillage massif, c'est-à-dire le fait que enfin, moi je prends la métaphore de l'arbre dans la forêt, elle est assez parlante, c'est-à-dire que le grand chêne qui est en train de s'effondrer, c'est notre société industrielle, s'effondre, et c'est parce qu'il s'effondre que les jeunes pousses en dessous peuvent enfin émerger à la lumière. Voilà, le grand arbre empêchait ces jeunes pousses aussi d'émerger. Et il suffit d'aller mettre les lunettes de la catastrophe pour voir dans le monde entier des milliers et des milliers et des millions de jeunes pousses, d'expériences d'agroécologie, de permaculture, mais de tout, d'économie sociale et solidaire, de monnaie locale. Enfin, il n'y a rien qu'à voir le film Demain, qui a un succès fou dans les salles et qui a un livre aussi. Combien ces jeunes pousses sont nombreuses, sont innovantes, enthousiastes. Enfin, c'est vraiment un mouvement mondial extrêmement enthousiasmant. Maintenant, ça ne veut pas dire, et là c'est la clé, ça ne veut pas dire que c'est gagné. Notre livre est clair, il faut, même malgré ces jeunes pousses, qu'on n'appelle pas des solutions, moi je n'appelle pas ces des solutions, ce sont des chemins à prendre pour arriver à bien naviguer dans cet effondrement. Et ça n'enlève pas l'idée d'effondrement. On ne l'évitera pas. Mais c'est bien parce qu'on acceptera l'idée d'effondrement qu'on pourra aller vers ces jeunes pousses, les voir, les bouturer, en prendre soin, les financer, voilà, et aller de l'avant.
En tout cas, il va y avoir une vraie mutation. Raphaël Stevens, par exemple, dans les secteurs économiques, on voit, si on prend juste l'exemple de la France, seulement 4% de la population française aujourd'hui travaille dans l'agriculture. On a pourtant tous besoin d'être nourris, on est plus de 60 millions. Donc l'agriculture, par exemple, est un secteur qui va recruter massivement dans les décennies qui viennent, parce qu'il va falloir relocaliser la production.
Oui, une simple raison, parce qu'aujourd'hui, pour produire une calorie de nourriture, il nous faut à peu près 10 calories d'énergie. Donc il y a un rapport là qui est effectivement complètement à remettre en lumière par rapport à la situation à laquelle on vit aujourd'hui. Donc il faut effectivement retrouver une manière de cultiver respectueuse de la terre, respectueuse du cycle de l'eau, manière de s'organiser face à tout ça qui nous permette d'aller de l'avant.
Et ça, on sait faire, c'est ça la bonne nouvelle.
Alors ça, oui, effectivement, il y a différents... L'agroécologie, par exemple, est une jeune pousse qu'il faudrait certainement nourrir. Il y a la permaculture aussi qui va dans le même sens, et même plus loin peut-être encore, et qui permettrait effectivement d'aller de l'avant et de proposer une vraie alternative au système industriel qui repose sur cette énergie fossile bon marché. Et voilà.
Comment vivre avec l'horizon d'un effondrement? Nous en parlons juste après une petite pause en compagnie de REM. Un extrait de Mad Max 2, un exemple de fin du monde dans C'est pas du vent. Et oui, Mad Max, c'est ce film australien de George Miller sorti en 1979 qui se passe dans un futur proche. Les grandes nations sont entrées en guerre pour le pétrole. Exaspérées par la situation de crise, les populations se sont révoltées tandis que des bandes de délinquants sillonnent les routes. Est-ce que c'est vraiment cela qui nous attend, Pablo Sévigne?
Moi, je pense pas. J'ai adoré Mad Max. J'ai adoré. Je suis assez fan et aussi des films de zombies et de tous ces films post-apocalyptiques. Et je me suis rendu compte que, en fait, cet imaginaire hollywoodien avait déformé mon imaginaire. Et quand on évoque le mot effondrement, je sais pas si vous avez vécu ça, mais au repas de famille, entre copains, eh bien, les premières images qui viennent dans la tête de la plupart des gens, c'est ces images de Mel Gibson avec un fusil à pompe, de tout le monde qui va s'entretuer. Et cet imaginaire, fabrique nos actions et notre posture, voilà, nous conditionne, et notre posture face à tout ce qui arrive. Et c'est ainsi qu'on voit se développer dans un terreau très individualiste comme aux États-Unis, les survivalistes, le mouvement survivaliste qui est très présent, ou prépeurs, on les appelle aussi les prépeurs, qui se préparent, qui font des stocks de nourriture, d'armes, des bunkers, pour un monde où tous les voisins sont des ennemis potentiels, seront des hordes de zombies affamés qui vont vouloir vous voler vos provisions. Donc on voit comment cet imaginaire peut s'auto-réaliser la puissance de l'imaginaire, des histoires qu'on se raconte, peuvent faire en sorte que l'avenir va s'auto-réaliser.
Et c'est pour ça que vous dites qu'il faut décoloniser notre imaginaire, parce que justement, la réalité, ce n'est pas du tout cela. En fait, après une catastrophe, il n'y a pas du tout ce côté individualiste qui surgit, mais au contraire, le « nous » prend plutôt
le dessus sur le « je ». C'est Serge Latouche qui dit « décoloniser l'imaginaire ». Mais tu veux répondre, Raphaël ?
Oui, effectivement, sur les catastrophes... On sait aujourd'hui qu'en fait, les mythes, la panique, par exemple, est un mythe. Quand une grande catastrophe se produit, un tremblement de terre, ou Katrina, par exemple, il n'y a pas eu tellement de panique, il n'y a pas eu on a tous cette donc imaginaire du tous contre tous. Mais en fait, on voit que pendant la catastrophe, c'est plutôt l'entraide, des élans d'altruisme qui prédominent, en fait.
Est vraiment intéressant, parce que justement, il y a eu beaucoup de médiatisation après la catastrophe aux États-Unis en disant il y a des vols, il y a des viols, etc. Et en fait, ça a été démenti à tel point que le chef de la police a été obligé de démissionner.
Exact. Et du coup, en fait, effectivement, l'armée a débarqué et de manière préventive a eu un peu aussi, chaque homme peut avoir peur, et donc de manière préventive a attiré. Et du coup, effectivement, d'autres tirs sont apparus. Et alors, évidemment, il y a eu un peu de violence. Mais au départ, en fait, c'était une situation plutôt de calme et d'entraide qui prédominait. Et donc ça, c'est vraiment important de se dire que la violence n'est pas inscrite
automatiquement
dans nos gènes, et qu'on peut se fabriquer d'autres imaginaires plus positifs pour aller de l'avant.
Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a été voir les études scientifiques qui étaient là-dessus, donc les sociologues, des psychologues qui ont étudié les récits des témoins de ces catastrophes, sont tous unanimes. Et c'est ça qui m'a frappé, c'est qu'on a des études scientifiques qui montrent, qui vont à l'encontre d'un mythe, du mythe de notre société qui se raconte de la guerre de tous contre tous, la compétition, l'état de barbarie quand l'ordre établi disparaît, on va tous s'entretuer. Et en fait, c'est pas basé sur les faits, c'est basé sur un imaginaire, nos mythes. Katrina n'est pas un fait isolé. C'est-à-dire que dans le grand incendie de San Francisco en 1906, dans les attentats terroristes, les crashs d'avions et des dizaines et des dizaines de catastrophes, les trois principales caractéristiques qui sont les plus fortes à l'épicentre de catastrophes, c'est un, pas de panique, deux, des comportements d'auto-organisation très puissants, et trois, l'entraide. Et une entraide et un altruisme assez exceptionnels. Alors, ça ne veut pas dire, c'est assez important aussi, que l'avenir sera bisounours et que l'effondrement va enfin faire advenir la paix partout dans le monde. Pas du tout. On est très conscient des conflits armés qui sont déjà là et qui vont gagner en puissance et en intensité, en fréquence, comme le rapport du GIEC nous le dit. Alors, il y a des guerres civiles, violences intergroupes, inter-États, etc. Tout ça arrive, les guerres climatiques arrivent, etc. Mais on peut quand même garder, tempérer ce message très, très sombre avec une vision de la nature humaine un peu plus positive.
Et vous dites que les pays les moins développés sont les mieux outillés.
Alors, c'est un constat qui m'avait marqué à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez de la crise des subprimes 2007-2008. Mmh. Il y avait eu des émeutes de la faim dans 35 pays. Les traders ont joué avec les prix alimentaires. Il y a eu des émeutes de la faim, des famines. Et donc, moi, ce qui m'a marqué, je m'étais intéressé à l'agroécologie à l'époque, au Mozambique, pays qui était déconnecté des grands marchés mondiaux et du système industriel, on va dire, agroalimentaire. Il n'a pas ressenti cette crise. Et en fait, il était très résilient, parce qu'ils avaient une production locale, des marchés locaux, ils n'étaient pas connectés au grand système. Et en fait, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que plus un pays est industrialisé et connecté, disons, au cœur de ce qu'on pourrait appeler l'Empire,
Version guerre des étoiles.
Eh bien, plus il tombera de haut, plus un pays est moderne, industrialisé, plus il tombera de haut à cet effondrement. Et actuellement, eh bien, il n'y a qu'à constater qu'il y a plus d'un milliard de paysans qui font de l'agriculture sans pétrole. Nous, ça nous paraît incroyable, inconcevable de faire de l'agriculture sans pesticides, sans tracteurs. Mais il y a un milliard de gens qui le font. Et ces gens-là souffriront moins que nous, disons, nos agriculteurs modernes. C'est juste ce renversement, encore une fois, d'imaginaire qui est très instructif, je trouve.
Mais ça crée un peu d'optimisme quand même. Et vous dites, pour conclure, qu'en fait, la solution, c'est se relier, parce que si on est auditeur, qu'on entend cette émission, une fois qu'on s'est pris le coup de massue derrière la tête, on se dit qu'est-ce que je peux faire? Et vous dites, bah, c'est simple, regardez autour de chez vous, vous pouvez vous relier aux centaines de réseaux qui existent déjà.
Oui, simple recherche sur un moteur de recherche sur Internet et vous pouvez trouver effectivement tout autour de vous beaucoup, beaucoup d'initiatives. Où que vous soyez, il y a toujours des initiatives qui vont vers plus de solidarité et vers plus d'altruisme, d'empathie et de compréhension entre les peuples et les individus.
En fait, une des clés aussi, on n'en a pas parlé, ce sont les émotions. C'est-à-dire que notre livre, il n'est pas du tout là pour faire peur, mais il peut déclencher de la peur, de la tristesse, de la colère, mais aussi de la joie ou de l'enthousiasme. Et en fait, on a un deuil à faire. C'est-à-dire que toutes ces phases, toutes ces émotions sont les étapes d'un deuil. Et en fait, quand on le fait au fil des semaines et des mois, on commence à faire ce deuil d'une vision de l'avenir quand c'était fait. À ce moment-là, commence à aller mieux. Et dans ce que vous disiez sur la reconnexion avec les autres humains, reconnexion avec la nature, reconnexion avec ses émotions et avec son imaginaire, et c'est une des clés, la reconnexion, une des clés pour bien vivre cet effondrement.
Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le titre de vos deux livres, Comment tout peut s'effondrer, c'est publié dans la collection Anthropocène aux éditions du Seuil. Et pour se rassurer un peu, le petit traité de résilience locale, c'est publié aux éditions Charles-Léopold Meyer. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Demain, nous vous emmènerons à la découverte du lac Nokwe au Bénin qui souffre de la surpêche et de l'invasion des jacinthes d'eau. Mais il y a des solutions. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.